Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 17 décembre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. En Guinée, l'opposant Roger Bamba, arrêté le 10 septembre, est mort en détention. Les djihadistes nigérians ont diffusé une vidéo de nombreux garçons qu'ils affirment être des lycéens enlevés vendredi à Kankara. Le Parlement français a approuvé la restitution de pièces historiques au Bénin et au Sénégal. Plusieurs dirigeants européens sont en quarantaine après avoir rencontré Emmanuel Macron, testé positif au coronavirus. Après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. En Guinée, Roger Bamba est mort en détention. Ce jeune militant de l'UFDG a été arrêté le 10 septembre. Il était très actif au sein de la coalition opposée au troisième mandat du président Alpha Condé. Il a été transféré hier dans un hôpital de Conakry. Le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
La nouvelle a provoqué une vague de réactions à Conakry. Le président du Conseil des organisations de la société civile guinéenne se dit choqué et révolté par la mort de l'activiste. Une mort de trop qui, selon lui, doit relancer le débat sur les questions des droits humains en Guinée. La mort de Roger Bamba a été annoncée jeudi matin par les médias. Il est actif au sein du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution. Les avocats de ce collectif opposé au troisième mandat d'Alpha Condé se disent aussi surpris. On ne nous avait pas dit qu'il était malade, s'est exclamé dans les médias Maître Mohamed Traoré. Roger Bamba a été arrêté le 10 septembre à Conakry, ensuite mis sous mandat de dépôt. Selon son parti, l'activiste a été admis à l'hôpital mercredi avant de rendre l'âme dans son lit de malade. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Le responsable de la communication du ministère de la Justice, Sekou Keïta, a indiqué que Roger Bamba avait le ventre et les pieds enflés. Le ministère a présenté ses condoléances et indiqué qu'il est du droit des familles et proches de faire une demande d'autopsie. Au Togo, les opposants Brigitte Adjamagbo-Johnson et Gérard Djossou, arrêtés fin novembre, ont été remis en liberté provisoire et placés sous contrôle judiciaire, a indiqué le procureur de la République. Ces deux figures de l'opposition, membres de la DMK, sont accusées d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et de groupements de malfaiteurs. Les djihadistes nigérians ont diffusé une vidéo montrant des dizaines de garçons qu'ils affirment être des lycéens enlevés à Kankara. Les enfants apparaissent à bout de force entassés dans une forêt. Des centaines de mineurs ont été enlevés vendredi soir par des hommes armés. Cet enlèvement a été revendiqué par le groupe Boko Haram. Dans une lettre adressée au président rwandais Paul Kagame, la présidente de la commission de surveillance de la Chambre des représentants aux États-Unis, Caroline Maloney, demande la libération de Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda, pour avoir sauvé la vie de nombreuses personnes durant le génocide. Madame Maloney affirme que Monsieur Rusesabagina a été enlevé par les autorités rwandaises alors qu'il se trouvait à Dubaï. Le ministre de la Justice rwandais, Johnston Businge, a répondu dans une lettre disant que la justice rwandaise est indépendante et que Rusesabagina a quitté Dubaï de son plein gré en jet privé et a été arrêté à son arrivée en vertu d'un mandat de 2018. Rappelant les charges de terrorisme qui pèsent contre lui, le ministre assure qu'il bénéficiera d'un procès équitable comme tout autre citoyens rwandais. Le gouvernement tchadien a annoncé avoir saisi les autorités compétentes pour ouvrir une information judiciaire après l'annonce par Facebook de la suppression de faux comptes gérés de Russie et de France accusés de mener des opérations d'interférence en Afrique. Le gouvernement condamne ces tentatives de manipulation des opinions publiques africaines, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Chérif Mahamat Zene. le Parlement français a approuvé la restitution de pièces historiques au Bénin et au Sénégal. Un geste pour aider à tourner la page du pillage culturel sous la colonisation. Le point avec Eric Manirakiza.
Le transfert au Bénin portait sur 26 pièces du trésor de Béhanza provenant du pillage du palais d'Abomey en 1892. Et sont aujourd'hui au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Le Sénégal doit récupérer la pleine propriété d'un sabre et son fourreau attribué à El Hadjo Martal, grande figure militaire et religieuse ouest-africaine du 19e siècle. Détenu par le musée de l'armée à Paris, ce sabre est exposé à Dakar dans le cadre d'un prêt de longue durée. Mais un couac est venu de la discrète annonce de la remise début novembre à Madagascar d'une couronne qui surmontait le dé de Ranavalon III, souveraine malgache du 19e siècle. Quelques 240 objets africains du musée du Quai Branly, suspectés d'avoir été pillés, font aujourd'hui l'objet de recherches pour déterminer l'origine de leur acquisition. La Grèce réclame ainsi en vain le retour des frises du Parthénon exposé au British Museum et l'Égypte d'innombrables trésors pharaoniques qui font la réputation de bien des musées occidentaux.
Le chef de l'armée soudanaise s'est rendu ce jeudi dans l'est du pays à la frontière avec l'Éthiopie, où l'armée dit avoir perdu des soldats dans une embuscade des forces éthiopiennes. Le général Abdel Fattah al-Burhan, qui dirige la transition au Soudan, s'est rendu à Guédaref. La presse fait état de la mort de 4 soldats, tandis que 12 auraient été blessés. Par ailleurs, l'ONU a annoncé avoir débloqué en urgence 35,6 millions de dollars pour fournir une aide aux civils victimes des combats au Tigré.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le point sur la pandémie de COVID-19 dans le monde. L'université Johns Hopkins fait état de plus de 74 millions de cas et 1,6 million de morts depuis décembre 2019. Les États-Unis sont sur le point d'approuver un second vaccin. Plusieurs pays font face à une deuxième vague. Le point avec Mouamadou Oumfa.
L'Europe est devenue la première région du monde à enregistrer plus d'un demi-million de morts. Les États-Unis ont rapporté mercredi un très lourd bilan de plus de 3000 morts et 250 000 cas en une seule journée. L'Allemagne a dépassé les 30 000 par jour pour la première fois. Au Japon, la capitale Tokyo a battu un nouveau record ce jeudi avec 822 nouveaux cas. L'Afrique du Sud a dépassé la barre des 10 000 cas en 24 heures. Le président français Emmanuel Macron a été testé positif et va s'isoler pendant 7 jours. Au moins 5 dirigeants européens ont promis de s'isoler après avoir participé les 10 et 11 décembre à un sommet européen avec le président français. De plus en plus de pays ont recours au vaccin anti-Covid-19. L'Arabie Saoudite a commencé ce jeudi une vaste campagne de vaccination. Le président russe Vladimir Poutine a assuré qu'il se ferait vacciner dès que ce sera possible pour sa catégorie d'âge, vantant le vaccin Sputnik V développé par son pays. La vaccination va commencer dans l'Union européenne à partir du 27 décembre. Une semaine après avoir recommandé l'utilisation du vaccin de Pfizer et BioNTech, un comité d'experts américains s'est réuni à nouveau ce jeudi pour évaluer celui développé par Moderna.
Vladimir Poutine qui a dit qu'il espérait résoudre avec le président élu américain Joe Biden les problèmes entre leurs deux pays. Il a néanmoins prédit que Donald Trump continuera de peser sur la scène américaine. Le point avec Abdourahman Dia.
Lors de sa traditionnelle conférence de presse de fin d'année, le président russe s'est montré optimiste quant au rapport avec la prochaine administration américaine. Nous espérons que tous les problèmes qui se posent, ou peut-être pas tous, mais au moins une partie, seront résolus sous la nouvelle administration américaine, a indiqué Vladimir Poutine. Il est un des rares dirigeants à avoir attendu le vote du collège électoral américain en faveur de Joe Biden pour le féliciter mardi. Joe Biden a promis de se montrer montré ferme face à la Russie, accusée notamment d'ingérence dans le système électoral américain. Le président Donald Trump a toujours nié avoir bénéficié des efforts russes. Vladimir Poutine a une nouvelle fois rejeté ce jeudi toute ingérence dans les élections américaines. Ce sont des spéculations dont le but est de détériorer les relations entre la Russie et les États-Unis, a-t-il dit. Pour lui, la relation russo-américaine est devenue otage de la bataille politique intérieure aux États-Unis.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Linden.
Au Mali, le Conseil des ministres a adopté mercredi le projet de loi de finances pour l'exercice 2021. Les prévisions des recettes budgétaires s'élèvent à 2 155 161 000 000 de francs CFA, soit une augmentation de 0,44% par rapport à 2020. Au titre des dépenses, l'accent sera mis sur la prise en charge des actions de la feuille de route de la transition, notamment le renforcement des moyens de défense et de sécurité, la lutte contre la COVID-19, l'amélioration des conditions de vie des populations, entre autres. En Côte d'Ivoire, l'hôtel Mövenpick ouvrira finalement ses portes à Abidjan. Le groupe suisse a fait savoir qu'il procédera à l'inauguration de ce complexe le 28 décembre prochain. Il est implanté au cœur du quartier des affaires du plateau à Abidjan. Cette infrastructure marquera la première installation du groupe hôtelier déjà présent dans 5 pays africains. Le Nigeria annonce la réouverture de postes frontières terrestres avec le Bénin, le Niger et le Cameroun. L'annonce de cette réouverture intervient à 2 semaines de l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange continental prévu le 1er janvier 2021 et que le Nigeria a rejoint après moult hésitations.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La Russie est exclue pour 2 ans des grandes compétitions mondiales, dont les Jeux olympiques d'été de Tokyo en 2021 et ceux d'hiver de Pékin en 2022, pour avoir transgressé les règles antidopage, a annoncé le tribunal arbitral du sport. Le TAS a réduit de moitié la sanction proposée l'an dernier par l'Agence mondiale antidopage, qui devait être de 4 ans, tout en laissant aux athlètes russes jamais sanctionnés pour dopage la possibilité de s'aligner sous bannière neutre. Les effets de la sanction sur le mondial de football qui s'achèvera au Qatar 2 jours plus tard ne sont pas encore clairs. Les athlètes russes peuvent certes concourir sous bannière neutre, mais le communiqué du TAS ne précise pas comment cette tolérance peut s'appliquer au sport d'équipe. La juridiction a condamné RUSADA, l'agence antidopage russe, à payer 1,27 million de dollars à l'Agence mondiale antidopage pour rembourser les expertises menées sur le trucage des données du laboratoire de Moscou. Balle au panier, le tournoi de basket des Jeux olympiques de Tokyo ne sera pas privé des stars de la NBA malgré le délai très réduit entre les finales et les JO à l'été 2021, a assuré Andreas Zaklis, secrétaire général de la Fédération internationale de basket. La NBA et l'association des joueurs ont trouvé un accord mi-novembre pour éviter une superposition du calendrier de la Ligue nord-américaine décalée en raison de la pandémie avec le tournoi olympique de basket. La saison régulière est réduite à 72 matchs contre 82 habituellement pour permettre aux finales de NBA de s'achever au plus tard le 22 juillet, soit la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux et 4 jours seulement avant le début du tournoi olympique masculin le 26 juillet. Le tournoi de l'Union nord-africaine de football des moins de 20 ans, qualificatif pour la CAN de la catégorie, se dispute sans l'Égypte, décimée par 18 cas positifs au coronavirus, dont l'entraîneur Rabi Yassine. Les Égyptiens ont déclaré forfait. Après le retrait des Pharaons juniors, le tournoi se joue donc à 4 équipes. L'Algérie, la Tunisie, pays hôte, la Libye et le Maroc se disputent donc les 2 places qualificatives pour Mauritanie 2021. En match d'ouverture, la Tunisie et l'Algérie se sont neutralisés 1-0. Seule l'Afrique du Nord et celle centrale n'ont pas encore désigné leur représentant à cette CAN 2021 des moins de 20 ans qui aura lieu en Mauritanie du 14 février au 4 mars prochain. En Bundesliga, l'ancien international ghanéen Otto Addo a été promu nouvel entraîneur adjoint du Borussia Dortmund. Ex-joueur du club allemand, Otto Addo a fait son retour dans le club à la fin de sa carrière. Pour le premier match des deux coachs, le Borussia Dortmund a battu 1-2 le Werder Bremen lors de la 12e journée du championnat allemand.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Tchad, les conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs ou intercommunautaires endeuillent presque chaque jour les familles et détruisent les biens. Une situation qui inquiète les évêques du pays. Dans leur traditionnel message de Noël, ils affirment que ces conflits tuent plus que le coronavirus et interpellent le président Idriss Déby. Un reportage d'André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
Ces conflits ont fait en moins de 3 semaines une cinquantaine de morts dans le Mayo-Kébi Est, une dizaine dans la Tangele Est au sud du Tchad et une vingtaine de morts dans le Bata Est, dans le centre du pays.
Comment comprendre que les agriculteurs et les éleveurs qui sont condamnés à se compléter n'arrivent pas à s'entendre?
Abbé Xavier Kouldjoum, secrétaire général de la conférence épiscopale du Tchad sur cette épineuse question qui endeuille très souvent les communautés. Le prélat en appelle à la responsabilité et à l'autorité directe du chef de l'État pour faire cesser ces conflits qui n'ont que trop duré et toutes les solutions envisagées jusque-là ont montré leurs limites.
On a constaté l'engagement avec lequel le chef de l'État s'est investi dans la colère de Goma, au Mali, un peu partout. Mais ce phénomène, qui est un phénomène de vivre ensemble, s'il s'y investit, nous sommes convaincus qu'il y aura solution.
Pour les hommes politiques, il faut que le président Déby agisse pour renverser la tendance. L'opposant Haladoum Balthazar Diarma s'interroge et accuse l'administration d'être partial dans le traitement des conflits.
Le message des évêques, en un mot, c'est la contribution de l'Église dans la résolution des conflits, à la recherche donc de la cohésion sociale et à la paix. Donc, je ne peux que m'aligner sur leur position pour demander au chef de l'État de s'investir personnellement parce que son administration sur le terrain est aujourd'hui un peu défaillante. Défaillante dans le sens où l'argent parle mieux que les situations, que les accords. Le discours qui est tenu par-ci, par-là, c'est de dire que la terre appartient à l'État. Mais l'État appartient à qui? L'État appartient à l'éleveur, l'État appartient à l'agriculteur et à ceux qui proclament qu'on essaye de dépolitiser l'affaire et que les administrateurs aussi soient partiels. Parce qu'il est sans ignorer que les sous-préfets qu'on vient de réhabiliter, les préfets et les gouverneurs ont tous de bétail entre les mains de ces éleveurs qui s'entêtent parce qu'ils pensent que la justice est de leur côté et qu'ils sont protégés.
Manasse Andigué, membre du bureau politique du parti au pouvoir, plaide pour la cohabitation pacifique et balaie d'un revers de main les accusations portées contre les administrateurs par certains acteurs politiques.
Il y a telle personne qui prend parti qui les dénonce, personne n'est au-dessus de la loi. Moi, en ce moment, je suis choqué parce que j'ai eu des preuves, voilà, pour un simple conflit, il y a eu des morts des hommes. Il y a une structure qui existe pour régler ce conflit, mais les gens sont partis pour se venger. C'est une rébellion qui ne dit pas son nom. C'est regrettable. Il n'y a pas de problème qui n'ont pas de solution.
Les évêques du Tchad s'interrogent également sur la provenance des armes de guerre utilisées par les civils dans ce genre de conflit, alors que le gouvernement avait à plusieurs reprises organisé des fouilles inopinées dans les domiciles pour, semble-t-il, ramasser des armes.
On se demande d'où est-ce qu'ils trouvent ça, parce qu'il n'y a pas un marché pour vendre les armes de guerre. À ma connaissance, ici au Tchad, ça fait peur. Parce qu'on a vu les gens mourir. On a été témoins de blessures. Et les gens qui meurent, les gens qui sont blessés, ce sont des Tchadiens.
Contacté à travers son service de communication pour avoir la version du gouvernement, le ministre de la Communication n'a pas donné suite favorable à notre demande. André Kodumajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Les commerçants et les camionneurs qui travaillent le long de la frontière entre le Cameroun et le Tchad sont en colère. Ils appellent à la fin des restrictions de voyage liées au coronavirus. Ils affirment survivre alors que les clients se plaignent des prix élevés et d'une pénurie de marchandises. Les détails dans ce reportage de Moki Edwin Kinzeka, le récit est de John Lyndon.
Les commerçants et chauffeurs des camions camerounais et tchadiens ont organisé mercredi une manifestation de 9 minutes sur le pont d'Ngeli qui traverse la frontière. Chaque minute de la manifestation symbolise un mois depuis que le trafic transfrontalier a été restreint en mars dernier pour Mal Goni, chauffeur des camions tchadiens, 47 ans, pour qui l'absence de commerce a dévasté ses revenus.
Nous, on aimerait même que la frontière soit ouverte. Parce que quand la frontière était ouverte, là, nous, quand on amène les marchandises, on décharge même à côté.
Les autorités camerounaises affirment qu'avant le 5 mars, lorsque les premiers cas de COVID-19 ont été signalés, au moins 1200 personnes traversaient le pont chaque jour. Et depuis, le nombre quotidien des traversées est inférieur à 200. La Camerounaise Chantal Nzali, 51 ans, transporte de l'huile de palme, des fruits et des légumes de la ville frontalière camerounaise de Kousséri pour les revendre en N'Djamena. Ses fournisseurs ont cessé de l'approvisionner en produits car les prix ont explosé avec la pandémie.
On a bloqué les mouvements à cause de Corona. Donc, rien ne marche comme les vivres. Il faut que l'État se bat.
Le Cameroun importe des aliments de base tels que le sorgho, les oignons et les arachides du Tchad. Abdulaziz est tchadien et négociant en arachides. Son entreprise a piqué du nez depuis le mois de mars.
Cette activité-là, ça ne marche pas. Depuis les frontières fermées, là, on souffre comme ça. Avant, là, 10h ou bien 11h, là, on vend même 1 million, 900 000. Mais là, même 100 000, là, tu ne trouves pas au marché, là.
Le Tchad, enclavé, dépend du Cameroun pour 80% de ses exportations, avait accepté d'autoriser les marchandises de son voisin, mais seulement si elles étaient transportées par camion de la ville balnéaire de Douala directement en N'Djamena et si les chauffeurs sont testés négatifs. Mais après la propagation du COVID-19 en mai, les deux pays ont refermé la frontière. Et Tundimbala est chef de la cellule de contrôle contre les maladies au ministère de la Santé publique du Cameroun.
Les épidémies, on le sait, évoluent sous divers modes. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une phase où vous avez la vie normale et puis une épidémie survient. Et quand ça survient, le nombre de cas va augmenter progressivement. Et puis vous allez engager un certain nombre d'actions de riposte pour arriver à juguler cette épidémie.
Le ministère camerounais de la Santé a confirmé plus de 25 000 cas de COVID-19 et plus de 400 décès. Plus de 2000 infections sont survenues au cours des trois dernières semaines. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le Tchad compte aujourd'hui plus de 1800 cas et plus de 100 décès.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Lorsqu'il entrera en fonction, le président élu américain Joe Biden devrait rapidement réviser certaines politiques d'immigration controversées du président Donald Trump. Aline Barros de La Voix de l'Amérique examine le plan de Biden sur les futures politiques concernant les réfugiés, demandeurs d'asile et bénéficiaires du DACA. Le récit est de Lionel Gaïma.
Interdiction des visas d'entrée, restriction des demandes d'asile et des réfugiés, séparation familiale, abrogation du programme DACA, voilà quelques mesures sur l'immigration prises par le président Donald Trump que le président élu Joe Biden a promis de renverser. Pour ce faire, il pourra émettre de nouveaux décrets. Maureen Sweeney est directrice de l'Observatoire de l'immigration au Maryland Carey Law.
Tout ce que le président Trump a fait de manière unilatérale, Biden peut le défaire unilatéralement ou l'annuler simplement. Par exemple, je m'attends à ce que l'interdiction de visa d'entrée soit annulée. Et presque immédiatement, le plafond des réfugiés va changer. C'est clairement quelque chose que le président a le pouvoir de faire.
Les efforts du président Trump pour mettre fin au programme DACA ont déclenché durant son mandat des grandes manifestations. Le programme DACA de l'ère Obama protège contre l'expulsion des personnes amenées illégalement aux États-Unis en tant que mineurs. Trump a déclaré que ce programme est comme une amnistie illégale, mais a promis d'aider les bénéficiaires si le Congrès agissait.
J'aime ces gens. J'espère que le Congrès pourra les aider et le faire correctement. Le Congrès n'a pas agi et le sort du programme Dakar se joue devant les tribunaux. La décision de justice la plus récente ordonne aux agences d'immigration de rétablir complètement le programme. Mais ceux qui s'y opposent jurent de continuer à le contester devant les tribunaux. Une chose est sûre, le dénouement prendra du temps. Dans le cadre de sa promesse de contrôler la frontière avec le Mexique et d'arrêter l'immigration illégale, Donald Trump a créé le protocole de protection des migrants connu sous le sigle MPP. Il oblige les migrants à rester dans les villes frontalières du Mexique en attendant leurs audiences devant un tribunal de l'immigration aux États-Unis. Les experts affirment que l'annulation et le rétablissement de la protection du droit d'asile seront les plus difficiles. Sarah Peels est analyste à l'Institut de politique migratoire.
Je pense qu'ils vont probablement ralentir ce problème. Il est certain qu'au début de l'administration, ils cesseront d'inscrire de nouvelles personnes au MPP ou resteront au Mexique.
Les partisans de la politique d'immigration du président Trump disent que les changements étaient nécessaires. Laura Rice de la Heritage Foundation.
Ce que l'administration de Trump a essayé de faire, c'est de revenir à l'intention initiale du Congrès qui a mis en place plusieurs de ces programmes.
Concernant les réfugiés qui, sous l'administration Trump, ont connu leur niveau d'admission le plus bas, Biden s'est engagé à porter le plafond à 125 000, mais il y aura beaucoup de travail à faire. Et l'immigration ne sera certainement pas en tête de la liste de priorités de Biden à cause de la pandémie de coronavirus qui fait rage aux États-Unis.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Sans surprise, l'engagement du régime cubain à dialoguer avec les centaines de jeunes manifestants pacifiques qui se sont récemment rassemblés pour protester contre l'absence de liberté d'expression à Cuba aura été de courte durée. Moins de 24 heures après une rencontre entre des représentants de la contestation et le vice-ministre de la Culture, Fernando Rojas, le régime a abandonné une chance de respecter les droits du peuple cubain. Rojas a dénoncé les manifestants et a rejeté leurs préoccupations concernant la censure et les attaques de la police contre les artistes indépendants. Beaucoup de manifestants sont membres du mouvement San Isidro, un collectif libre d'écrivains, d'artistes, de musiciens et d'autres citoyens qui sont scandalisés par les restrictions continuellement imposées par le régime, y compris une loi exigeant que toute activité artistique soit enregistrée auprès du gouvernement. Plus récemment, les manifestants ont protesté contre la condamnation sommaire de membres éminents du groupe, parmi lesquels le musicien Denis Solis González, pour s'être exprimé de manière indépendante. Le régime a pris pour cible à plusieurs reprises Solis pour avoir exercé sa liberté d'expression en dénonçant les violations des droits de l'homme à Cuba et l'a arrêté le 9 novembre. Les autorités cubaines ont détenu Solis au secret pendant 3 jours avant de le condamner à 8 mois de prison pour outrage douteux. Les autorités cubaines ont arrêté des dizaines de journalistes et de défenseurs des droits humains cherchant des informations sur son cas ou demandant sa libération. Malgré la réaction brutale du gouvernement, les protestations concernant son cas et le manque de liberté d'expression à Cuba se sont poursuivies, suivies de nouvelles attaques et arrestations par la police. Des membres de la communauté internationale ont exprimé des objections à la répression, y compris Amnesty International. Le département d'État américain a pris une position ferme. Dans une déclaration écrite, le secrétaire d'État Mike Pompeo a dit « Les États-Unis condamnent fermement le harcèlement par le régime cubain des militants qui protestent pacifiquement contre l'emprisonnement du défenseur des droits humains Denis Solis Gonzalez. Nous exhortons le gouvernement cubain à rejeter cette condamnation injuste et à le libérer sans condition. Les États-Unis sont solidaires du peuple cubain et nous continuerons de dénoncer ces abus flagrants contre les Cubains exerçant leurs droits, a déclaré le secrétaire d'État Pompeo. Nous appelons les partenaires démocratiques du monde entier à faire entendre leur voix et à faire du respect des droits de l'homme une condition préalable à toute interaction avec le régime de Castro.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.